France Culture.
Le journal est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À Mayotte, le cyclone Dikeledi, rétrogradé en tempête tropicale, commence à produire ses effets sur un territoire très endommagé par le passage du cyclone Chido il y a un mois. Les 320 000 habitants de l'archipel sont confinés. Près de 15 000 personnes ont été mises à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence. Des centres d'hébergement d'urgence et de distribution de nourriture qui ne désemplissent pas à Los Angeles. Les flammes continuent de ravager la mégalopole et sa banlieue. Les incendies ont fait au moins 16 morts. Faciliter l'implantation d'usines et la réindustrialisation du territoire, c'est ce que prévoit entre autres la loi Industrie Verte. Une loi entre en vigueur en octobre 2023, mais dont des décrets publiés l'été dernier s'attaquent au principe du pollueur-payeur, d'après l'ONG Notre Affaire à Tous, qui saisit le Conseil d'État. On en parle avec notre invitée, Adeline Paradise, avocate en droit de l'environnement. Des pluies torrentielles, un village inondé et déjà un mètre d'eau dans le sud de Mayotte. C'est ce qu'affirme le maire de Mamoudzou, alors que le cyclone Dikeledi, rétrogradé en tempête tropicale modérée, se rapproche de l'archipel dans l'océan Indien et risque de s'intensifier. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous êtes à Kungu, deuxième ville du département au nord de Mamoudzou, et la situation s'est considérablement dégradée ces dernières heures.
Oui, comme vous le disiez, c'est dans le sud en fait que la situation semble la plus délicate en ce début d'après-midi mahorais. Symptomatique, le village de Mwini, le seul qui avait été épargné par Chido, eh bien, est en ce moment inondé. La ravine qu'il traverse, comme beaucoup, elle était à sec hier soir encore. Et elle ressemble à présent à un torrent qui est très impressionnant. Ça n'est pas le seul endroit dans le sud. La tempête Dikeledi est en train de s'éloigner, on dirait pas, parce que elle va impacter l'île encore toute la journée, de la pluie jusqu'en milieu de journée, une marée haute aussi qui inquiète vers 15h30. Ça veut dire que l'eau des ravines ne va pas pouvoir s'évacuer, que le risque d'inondation est accru dans les communes de l'ouest. Les vents sont en train de tourner et si la pluie devrait se calmer un peu dans l'après-midi, eh bien les rafales, elles, sont, semble-t-il, en train de se renforcer et cela va durer jusqu'en fin de journée. Rafales très fortes, par exemple là où je suis sur le hauteur de Kungu, des tôles sont en train de lâcher, les palmiers sont en train de perdre leur dernière palme, Julie.
Alors heureusement, l'alerte rouge semble fonctionner et la majorité des Mahorais, Béatrice, sont à l'abri.
Les centres d'hébergement sont effectivement plutôt pleins depuis hier soir à Kungu, par exemple. L'une des écoles où se sont réfugiées, 950 personnes dans cette école hier soir. Ce n'était pas le cas pour Chido. Elles sont souvent, ces populations, en revanche, sans vivres et parfois sans eau. Malgré tout, les habitants y sont en sécurité. Et faute de cela, eh bien, les abris sont vraiment précaires. Je pense à ces familles, femmes, enfants, réfugiés dans une maison en construction qui est en face de là où nous habitons. Certes, les murs protègent du vent, mais pas de la pluie. Les étages sont inondés. Les occupants, n'ont plus de la possibilité de s'asseoir, par exemple, ne serait-ce que ça. C'est compliqué, évidemment, pour tous les jeunes enfants qui ont les pieds dans l'eau.
Béatrice Duguay en direct de Kungu à Mayotte avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. L'influenceur algérien de 59 ans, interpellé mardi à Montpellier avant d'être expulsé en Algérie, puis renvoyé en France dans la foulée, doit être présenté à un juge des libertés de la détention aujourd'hui, qui décidera s'il sera assigné à résidence ou maintenu en détention. Cet homme, qui se fait appeler Doualem sur TikTok, se trouve depuis jeudi dans un centre de rétention administrative. Il doit être jugé en février prochain pour provocation à commettre un crime. Ces arrestations d'influenceurs algériens enveniment un peu plus la relation entre la France et l'Algérie, à tel point que le porte-parole du RN, Julien Odoul, estime ce matin que plus aucun Algérien ne doit être accueilli sur le sol de France tant qu'ils ne reprennent pas leur brebis galeuse. Fin de citation. À deux jours de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, François Bayrou fera-t-il un geste sur la réforme des retraites? Elle est au cœur des discussions à Bercy cette semaine et en coulisses tout le week-end pour permettre au gouvernement d'échapper à la censure des socialistes et des écologistes. Mais le président du Sénat met en garde ce matin. Ni suspension, ni abrogation, prévient Gérard Larcher dans les colonnes du Parisien. Le Premier ministre se retrouve donc une fois encore sur une ligne de crête, trouver un accord avec la gauche, mais sans perdre son socle commun et le soutien de la droite LR, analyse le politologue Benjamin Morel.
Il faut bien comprendre que l'un des éléments qui a fait tomber Michel Barnier, il y en a eu plusieurs, mais c'est qu'il a été concentré sur les négociations au sein de son socle commun. Il est arrivé, rien n'avait été négocié entre LR et les macronistes, et donc il a dû rentrer dans un jeu de négociation à couteau tiré entre les différentes composantes de sa majorité très relative. Et là, eh bien, on a eu des LR et des macronistes qui se sont montrés singulièrement discrets. Donc le gouvernement a eu une sorte de chèque en blanc pour négocier avec la gauche. Seulement, bah, ses partenaires de la majorité, ils ont également des impératifs. Ils ont des impératifs idéologiques, symboliques, mais également électoraux. Aujourd'hui, il y a une grande porosité entre l'électorat de la droite classique et le Rassemblement national. Ce sur quoi la droite classique se singularise pour cet électorat, c'est notamment sa crédibilité économique. Suspendre la réforme des retraites donnerait le sentiment qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de LR, ce qui en effet peut paniquer les dirigeants. Si jamais vous ne rentrez pas dans le jeu de négociation, si jamais vous ne réclamez rien, eh bien vous ne pesez rien. Parce qu'on considère que votre vote est acquis. Donc il va falloir, pour LR, faire monter la pression. Négocier des choses, essayer de retenir des éléments, essayer de dire que, à l'inverse des socialistes, si jamais on ne devait pas revenir, par exemple, sur l'âge de la retraite, eh bien, entre guillemets, ce serait grâce à eux, parce qu'ils se seraient battus. Donc il va falloir concéder des victoires aux différentes composantes, ne censurant pas le gouvernement, à dessein que le budget passe.
Le politologue Benjamin Morel sur France Info ce matin. Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, seront tous deux reçus lundi après-midi par le Premier ministre François Bayrou. Zero Waste France et Notre Affaire à tous saisissent le Conseil d'État contre 3 décrets d'application de la loi Industrie Verte. Des décrets pris entre les deux tours des élections législatives l'été dernier et qui permettent, entre autres, d'accélérer des procédures d'urbanisme ou environnemental pour des projets industriels stratégiques. Des décrets qui opèrent, selon ces deux ONG, un détricotage massif du droit à l'environnement industriel. Bonjour Adeline Paradez.
Bonjour.
Vous êtes avocate en droit de l'environnement de l'ONG Notre Affaire à tous. Merci d'être avec nous en studio sur France Culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces 3 décrets déconstruisent les avancées du droit environnemental ?
Alors, j'étais avocate, je ne suis plus avocate. Et ces décrets, en fait, ils s'inscrivent dans un mouvement global, comme vous l'avez très bien dit, de détricotage du droit de l'environnement industriel. Ils sont très denses, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils prévoient, mais principalement, ici, je vais vous parler du fait qu'il y a une vraie volonté d'imposer les décisions depuis Paris d'implantation de nouvelles industries. Et aussi, il y a une suppression des garanties financières qui, avant, étaient là pour empêcher, quand un industriel fait faillite, par exemple, empêcher que la dépollution du site revienne sur les finances de l'État. Et aujourd'hui, ces garanties financières ont disparu. Et donc, c'est aussi une conséquence, c'est que ça va impacter vraiment les finances de l'État.
C'est ce principe de pollueur-payeur, en fait, qui est attaqué.
Exactement. Alors, le principe de pollueur-payeur demeure, mais ce qu'on va attaquer, c'est qu'est-ce qui se passe quand le pollueur ne peut plus payer. Et avant, en fait, quand le pollueur ne pouvait plus payer, il y avait des garanties financières qui avaient été mises en amont, quand on créait l'activité, notamment, et qui permettaient d'aller taper dans ce fonds de réserve ou alors sur des garanties bancaires. Et aujourd'hui, ces garanties, elles ont disparu. Et donc, c'est l'État qui va devoir payer lorsque, par exemple, un industriel fait faillite et donc ne peut plus assurer la dépollution du site. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Métal Europe Nord, qui est à Noyelles-Godault, où c'est l'ADEME qui paye la dépollution du site.
Alors, en septembre dernier, vous avez effectué un premier recours gracieux pour demander l'annulation de ces décrets, mais le gouvernement n'a apporté aucune réponse. Et pourquoi vous tournez vers le Conseil d'État ?
Eh bien, parce que justement, on n'a eu aucune réponse, on n'a eu aucun même enclenchement de dialogue avec le gouvernement, et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. On a changé plusieurs fois de gouvernement depuis, mais ça n'empêche pas que le ministère de la Transition écologique est plutôt stable et n'a pas daigné nous répondre.
Alors, au contraire, pour une large partie des industriels, ces décrets sont indispensables pour attirer des investisseurs et permettre la réindustrialisation du pays. Et ce, alors que la dynamique de réindustrialisation, justement, de la France est en train de ralentir. L'annulation de ces décrets pourrait donc freiner l'élan industriel pour ces industriels. Que leur répondez-vous ?
Qu'en réalité, on a bien vu qu'il y avait une dynamique de réindustrialisation qui s'est passée avant ces décrets, avant la loi industrielle Industrie Verte, que cette dynamique, elle est plus liée à des questions de politique globale et aussi de confiance dans la stabilité de nos institutions, mais aussi du droit en cours. Et là, ces décrets, même pour les industriels, ils ne sont pas bons, puisqu'en fait, ils viennent induire une instabilité, puisqu'il y a plein de notions au sein de ces décrets qui ne sont pas claires et qui vont créer des contentieux sur contentieux et donc finalement fragiliser les projets industriels plutôt que de les consolider.
Alors concrètement, si on regarde les grands projets industriels en cours, hein, il y a notamment la future usine Eastman en Seine-Maritime. Vous pensez que ce projet du groupe Eastman aura des impacts sur la biodiversité et la qualité de l'air, avec un risque élevé de dispersion des microplastiques dans l'environnement. Or, il a reçu la qualification de projet d'intérêt national majeur.
C'est ça. Et ce projet, il est même d'un point de vue développement durable, et même sans parler de ses impacts sur les riverains, il est assez... je pense que c'est assez simple de comprendre qu'il n'est pas vertueux, puisque aujourd'hui, dans ce projet, il va falloir brûler du plastique pour pouvoir recycler ce plastique, et on va brûler plus de plastique que l'on va en recycler, et pas un petit peu plus, vraiment nettement plus. Et donc, en réalité, alors que ce plastique, on a, pour une bonne partie, des solutions de recyclage mécanique qui existent, et qui sont viables économiquement, et qui sont plus vertueuses pour l'environnement.
Mais est-ce qu'on peut vraiment concilier, du coup, réindustrialisation et protection de l'environnement ?
Oui, à condition de respecter le droit de l'environnement. Ces règles, elles sont aussi là pour les industriels. Elles sont là notamment pour permettre une meilleure acceptabilité sociale des projets. Et si, par exemple, on vient imposer les projets de Paris sans réellement prendre en compte la parole des voisins du projet, sans prendre en compte la parole des collectivités locales, c'est pas comme ça qu'on va faire en sorte que les projets soient acceptés et qu'il y ait moins de recours contre ces projets. C'est au contraire, en s'y prenant en amont, en enclenchant le dialogue avec à la fois les citoyens, les citoyennes et avec les associations, que l'on peut construire des projets qui seront à la fois vertueux économiquement et pour l'environnement.
Merci beaucoup Aline Paradez. Je rappelle que vous êtes non pas avocate, mais juriste en droit de l'environnement de l'ONG. Notre affaire à tous. Merci d'être venu avec nous sur France Culture. Les incendies continuent de gagner du terrain à Los Angeles, où 16 personnes ont trouvé la mort d'après le dernier bilan publié ce matin. Alors si les pompiers ont bénéficié d'une relative accalmie du vent ces trois derniers jours, ce dernier s'est renforcé hier, propageant donc les braises sur des kilomètres au nord-ouest de la mégalopole. 150 000 personnes ont été forcées de fuir face aux flammes et beaucoup ont tout perdu, comme à Pasadena, une ville située dans la banlieue de Los Angeles, ravagée par les flammes. La solidarité s'organise et les dons affluent de toutes parts. C'est un reportage de Sandrine Etouarandek et de Laurent Macchietti.
L'atelier de poterie d'Altadena ressemble à un supermarché. Matt, un bénévole, décrit les rayons qui débordent. On a des tonnes de vêtements, des litres et des litres d'eau, des produits d'hygiène, des chaussures. Karen, la responsable, nous glisse. On va presque devoir empêcher les gens de donner. Là, on ne sait plus quoi faire de tout ça. C'est en tout cas une aide précieuse pour Johannes, venu les mains vides. Il repart avec une valise remplie de vêtements. Je me sens à la fois triste et confus, mais aussi tellement reconnaissant. Le soutien et la générosité de ces gens est extraordinaire. Un réconfort qui atténue un peu le traumatisme de ces derniers jours pour Janet. Les gens sont là pour nous qui n'avons pas eu le temps de prendre des affaires en quittant nos habitations. C'est extraordinaire toute cette solidarité. Les deux tiers de ma maison ont brûlé, il faut l'accepter et se dire que tout ira bien. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur domicile, des évacuations qui se poursuivent alors que les incendies repartent de plus belle.
Ce ne sont pas les flammes, mais un tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts, 300 000 blessés et 1 300 000 sans-abri à Haïti, il y a 15 ans, jour pour jour, le 12 janvier 2010. Un séisme qui a engendré des dégâts colossaux dans ce pays des Caraïbes. Malgré la mobilisation de la communauté internationale à l'époque, la reconstruction n'a pas été coordonnée. Et 15 ans après, Omar Waman, le pays ne s'est toujours pas relevé.
La secousse a duré 35 secondes et transformé Port-au-Prince et plusieurs autres villes du pays en champs de ruines. 15 ans plus tard, les camps de fortune ont quasiment tous disparu, les gravats déblayés, mais les milliards de dollars promis par la communauté internationale pour la reconstruction n'ont pas massivement bénéficié aux victimes. Kestner Farrell, économiste haïtien.
Lorsque le 12 janvier 2010, on a connu ce tremblement de terre, le choc était violent et en fait le pays avait obtenu de la communauté internationale un montant assez important. Mais où sont passés ces fonds ?
C'est la question que se posent tous les haïtiens. Près de 10 milliards d'euros de promesses de dons versés en grande partie à des ONG pour reconstruire Haïti. Mais rien de durable n'a été bâti. Très peu de constructions antisismiques, dénonce l'ingénieur et géologue Claude Prepty, alors que l'insécurité a déplacé plus de 700 000 Haïtiens.
Si un tremblement de terre survient maintenant, aujourd'hui, cela peut faire des dégâts considérables compte tenu de la situation. On ne peut pas, dans ces conditions, parler de réduction du risque sismique, de demander aux gens de construire parasismique, alors que les gens ont abandonné leur maison.
Et symbole de l'échec de la reconstruction, le palais présidentiel en plein cœur de Port-au-Prince, qui s'est effondré lors du tremblement de terre, n'a toujours pas été reconstruit.
Omar Waman, un mot de météo avec une après-midi sous la grise et des Pays de la Loire au Hauts-de-France. Les éclaircies font en revanche leur apparition du centre-val de Loire à la Franche-Comté. Le soleil dominera sur la moitié sud. Comptez 0 à 3 degrés sur le nord, 4 à 8 sur le sud.